clair. Un jour plus tard, lundi 5 septembre 2016. J'avais oublié à quel point j'aime le bruit de Manhattan. Ses vibrations diffuses, presque rassurantes. Le bourdonnement au loin de la circulation. Une rumeur flottante qui me rappelle mon enfance. Je me réveille la première. Je n'ai quasiment pas dormi. Je suis trop excité, trop déphasé pour trouver un sommeil paisible. Ces dernières 24 heures, je suis passé du désespoir le plus noir à des moments d'euphorie et de sidération. Un trop-plein d'émotions. Un grand 8 vertigineux qui me laisse groggy, épuisé, heureuse et triste à la fois. En prenant garde à ne pas le réveiller, je me glisse au creux de l'épaule de Raphaël. Je ferme les yeux et repasse le film de nos retrouvailles de la veille. Mon arrivée à New York, à l'aéroport Kennedy. Mon cœur qui se serre en revoyant mes tantes et mes cousins, vieillis de plus de 10 ans. Le petit Théo qui court et se jette dans mes bras pour me faire un câlin. Puis Raphaël, bien sûr, qui m'a apporté la preuve qu'il était l'homme que j'attendais. Celui qui a été capable de venir me rechercher, là où je m'étais perdu. Là où ma vie s'était arrêtée. L'homme qui m'a rendu mon histoire, ma famille, ma descendance. Je n'arrive pas encore à accepter totalement l'histoire qu'il m'a racontée. Désormais, je sais qui est mon père. Mais je sais aussi qu'à cause de moi, à cause même de mon existence, mon père a tué ma mère. À part enrichir un psy pour les 20 années qui viennent, je n'ai pas encore décidé ce que je ferai de cette information. Je suis déstabilisé, mais sereine. Je sais que j'ai renoué avec mes racines et que les choses vont se remettre en place progressivement. Je suis confiante. Mon secret a toutes les chances d'être préservé. J'ai retrouvé mon identité, sans être obligé de la crier sur les toits. J'ai retrouvé ma famille. Et l'homme que j'aime sait enfin qui je suis vraiment. Depuis cette libération, dans tous les sens du terme, je me rends compte à quel point, au fil des années, le poids du mensonge avait fini par me déformer, par me tordre, pour faire de moi un être caméléon, toujours en fuite, toujours sur la réserve, capable de se faufiler au milieu des difficultés, mais sans aucune racine, sans confiance ni point d'ancrage. Je ferme les yeux. Les souvenirs agréables du dîner de la veille flottent encore dans mon esprit. Le barbecue dans le jardin, les rires et les pleurs d'Angela et de Gladys en apprenant que j'allais bientôt être mère, l'émotion indicible de revoir ma rue, mon ancienne maison, ce quartier que j'aimais tant. L'odeur du soir, celle du pain de maïs, du poulet frit et des gaufres. La soirée qui se prolonge, la musique, les chansons, les verres de rhum, les yeux qui piquent de bonheur. Bientôt pourtant, la bobine ralentit et le film s'arrête pour laisser place à d'autres images, plus sombres. C'est un rêve que j'ai déjà fait cette nuit, dans un demi-sommeil. Je me revois ce fameux soir, lorsque je suis rentré à Montrouge. Au moment de pousser la porte de mon appartement, j'ai senti un danger latent et une présence derrière moi. Lorsque je me suis retourné, une lourde torche en aluminium s'est abattue sur moi. Une douleur fulgurante qui explose dans mon crâne. Tout s'est mis à tourner autour de moi et je me suis écroulé au sol. Mais je ne me suis pas évanoui tout de suite. Avant le blackout, pendant 2 ou 3 secondes, j'ai aperçu. Je ne sais plus. Et c'est ce qui m'a tenaillé cette nuit. Je me concentre, mais mon cerveau mouline dans le vide. Un brouillard opaque et laiteux m'empêche de retrouver mes souvenirs. J'essaie de fixer des images qui se dérobent. J'insiste. Des fragments de mémoire émerge de la brume, flou, filant, comme une pellicule qui n'aurait capté que des paysages aux couleurs de craie. Puis les traces se précisent. Je déglutis. Mon cœur s'accélère. Pendant ces quelques secondes, avant de perdre connaissance, j'ai vu les lattes du parquet, mon sac que je venais de laisser tomber, le placard en désordre qu'on avait fouillé, la porte de ma chambre entrouverte, et là, par terre, dans l'entrebâillement, il y a un chien. Un chien en peluche marron avec de grandes oreilles et une truffe ronde. Ce chien, c'est Fifi, la peluche de Théo. Je me lève du lit d'un bond, je transpire. Mon cœur bat à tout rompre. Je dois confondre. Et pourtant, à présent, mes souvenirs ont la clarté du cristal. J'essaie d'établir une explication rationnelle, Mais je n'en vois aucune. Il est impossible que le doudou de Théo se soit trouvé à Montrouge, pour la bonne et simple raison que Raphaël n'est jamais venu dans mon appartement avec son fils. Or, ce soir-là, Raphaël était à Antibes. C'est Marc Karadec qui gardait Théo. Marc Karadec. J'hésite à réveiller Raphaël. J'enfile mon jean et mon chemisier qui traînent sur la banquette au bout du lit et je sors de la chambre. La suite se prolonge par un petit salon dont les baies vitrées donnent sur l'Hudson. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Je regarde la pendule. Il est tard, presque 10 heures. Je m'assois à la table et me prends la tête dans les mains pour essayer de rassembler mes idées. Comment ce doudou pouvait-il être là? Il n'y a qu'une explication. Théo, et donc Marc Karadec, était chez moi cette nuit-là. Profitant de notre voyage en amoureux à Antibes, Marc se serait introduit dans mon appartement dans le but de le fouiller. Mais mon retour à l'improviste a contrarié ses plans. Dès que je suis entré, il m'a assommé avec sa torche, puis il m'a séquestré dans ce garde-meuble de la région parisienne. Mais pour quelle raison? Je suis abasourdi. Marc a-t-il deviné qui j'étais depuis plus longtemps qu'il ne le prétend? Même si c'est le cas, pourquoi m'en voudrait-il? Est-ce lui qui a agressé Clotilde Blondel? Lui qui, depuis le début, joue un double jeu dévastateur? Un pressentiment horrible me traverse l'esprit. Il faut que je vérifie quelque chose. Je me précipite près du canapé sur lequel est posé mon sac de voyage. Je l'ouvre et fouille pour y trouver ce que je recherche. Un gros cahier cartonné à la couverture bleue, celui que j'ai récupéré le soir de ma fuite de chez Heinz Kiefer. Le cahier qui était resté caché chez moi, enfoncé loin derrière la plainte, à côté du sac qui contenait l'argent. Le cahier que n'ont pas vu Raphaël et Marc. Le cahier qui a changé ma vie et que je suis allé reprendre hier matin, quand Angeli m'a libéré, avec mon passeport et quelques vêtements. Je tourne les pages. Je cherche un passage précis que j'ai en tête. Lorsque je le retrouve enfin, je le parcours plusieurs fois, essayant de lire entre les lignes. Puis mon cœur se glace. Et je comprends tout. J'ouvre la porte de la chambre de Théo. Le bébé n'est plus dans son lit. À la place, un mot manuscrit sur le papier à l'entête de l'hôtel. Sans perdre une seconde, j'enfile mes chaussures, je pose le mot sur la table de l'entrée et j'attrape mon sac à dos dans lequel je glisse le cahier bleu. L'ascenseur, la réception. Sur un des pliants dans la chambre, j'ai vu que le Bridge Club mettait gratuitement des vélos à la disposition de ses clients. J'attrape le premier qu'on me propose et m'élance dans Greenwich Street. Le temps s'est un peu couvert et le vent balaie les rues d'ouest en est. Je pédale comme lorsque j'étais ado. D'abord vers le sud, puis dès que je le peux, je tourne sur Chambers Street. Je retrouve des sensations oubliées. New York est ma ville, mon élément. Les années ont beau s'être écoulées, je connais par cœur sa géographie, son pouls, sa respiration, ses codes. Dans le prolongement de la rue, les tourelles de nacre de Municipal Building s'élèvent sur 40 étages. Je fonce sous son arche monumentale pour attraper la voie du Brooklyn Bridge réservée aux vélos. Enfin, au bout de la passerelle, je me faufile entre les voitures et longe le parc de Cadman Plaza, puis me laisse glisser vers les rives de l'East River. Je suis au cœur de Dumbo, l'un des anciens quartiers industriels et portuaires de la ville, situé entre le pont de Brooklyn et le pont de Manhattan. Je venais quelquefois ici en promenade avec ma mère. Je me souviens des façades en briques rouges, des vieux docks et des entrepôts rénovés donnant sur la ligne de gratte-ciel. J'arrive dans une zone encadrée de pelouses vallonnées qui descendent vers une promenade de bois face à Manhattan. La vue est à couper le souffle. Je m'arrête un instant pour la contempler. Je suis de retour. Pour la première fois de ma vie, je deviens réellement la fille de Brooklyn.